13h.
Écoutez de vive voix du lundi au jeudi à 13h30 sur RFI.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. Et tout de suite, RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux. Le tour de l'actualité dans le monde. Nous sommes en Afrique du Sud aujourd'hui, où de grandes marches anti-immigration sont prévues dans tout le pays. Particulièrement inquiétant pour les étrangers installés en Afrique du Sud parce qu'ils ont été victimes de flambées de violences xénophobes à plusieurs reprises ces dernières décennies. Comme l'explique ce Sénégalais, lui, contrairement à d'autres, a refusé de partir.
Il y a plein de gens qui en ont marre et qui veulent rentrer parce que ça fait bientôt 20 ans que ça dure. Depuis les 2-3 ans, il y a cette situation. Les gens en ont vraiment marre. Mais il y a aussi, la majorité veulent toujours rester parce qu'ils ont leur business ici, parce qu'ils ont fait leur vie ici. Donc, ils ne veulent pas juste partir du jour au lendemain.
Ils sont 25 000 immigrés à avoir déjà quitté l'Afrique du Sud ces dernières semaines. Reportage à Durban dans le journal dans un instant. Et puis, nous essaierons de comprendre qui est à l'origine de ce regain de haine à l'égard des étrangers. Quel groupe, quel mouvement politique aussi, avec notre invité dans un peu plus d'une heure.
RFI Midi.
Nous irons aussi au Venezuela 6 jours après le tremblement de terre qui a fait plus de 1700 morts et 50 000 disparus. Le pays peine à prendre en charge les victimes, à établir leur identité et à les inhumer. Les morgues, comme les centres de santé, sont saturés. L'OMS dit à l'instant craindre l'apparition de maladies. Reportage à Caracas à écouter juste après 13h, temps universel. Alors que l'Europe de l'Est subit toujours une chaleur hors norme et que les températures vont de nouveau monter la semaine prochaine en France, le Sénat français adopte une loi dite d'urgence agricole avec des dispositions ultra controversées en ce qui concerne la gestion de l'eau. On vous explique tout dans une demi-heure. Et puis on parlera aussi de foot et de 2 équipes européennes sorties de la Coupe du Monde. Les Pays-Bas, éliminés par le Maroc, et surtout l'Allemagne qui poursuit sur sa mauvaise pente. Battue par le Paraguay, c'est la surprise de ces 16e de finale. Toute l'actualité sportive à midi et quart, temps universel. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et pour commencer le journal, bonjour Simon Marseille.
Bonjour Anne et bonjour à tous.
Avec l'Afrique du Sud donc, qui retient son souffle aujourd'hui.
Un jour qui marque la fin du compte à rebours d'une campagne anti-immigration pour pousser les étrangers sans papier à quitter le pays. Et mobilisation pilotée par des groupes citoyens très structurés. Ils annoncent de nombreux rassemblements après plusieurs semaines de violentes manifestations qui ont déjà fait 4 victimes. 25 000 immigrés, vous le disiez dans les titres, ont à ce jour été poussés à l'exode. Valentin Hugues, vous êtes à Durban et le cortège a commencé à investir les rues du centre-ville.
Oui, et vous l'entendez, hein, derrière moi, les rues de Durban commencent à bouillonner. Il y a plusieurs milliers de personnes et on sent vraiment que tout le monde est très galvanisé. Parfois, les manifestants courent dans les rues, arborent des symboles de la culture zoulou. Ces manifestants nous disent que la marche est pacifique. Pour l'heure, je n'ai pas assisté à de la violence physique, mais tout de même des premières intimidations. À un moment, nous sommes passés devant un bâtiment et tous les manifestants ont pointé du doigt les gens aux fenêtres. Et puis, ils leur ont crié « il faut quitter le pays maintenant ». Une manifestante m'expliquait « voilà, on sait qu'ici, il y a beaucoup d'étrangers qui vivent, on leur demande juste de partir ». Ça résume très bien le message de l'organisation March and March, hein, qui organise ces marches. L'idée, c'est vraiment d'investir les rues, de se montrer, de créer ce climat un peu tendu, ce climat hostile, et de dire « voilà, tant que le gouvernement ne répondra pas à nos attentes, on continuera ». Les attentes, hein, à savoir déporter les immigrés irréguliers et sécuriser les frontières. En tout cas, ici à Durban, à part les manifestants, il n'y a presque personne dans les rues. Tous les magasins sont fermés, ça fait un peu ville fantôme. Et puis évidemment, un dispositif policier impressionnant, voitures, motos, hélicoptères, unités d'élite pour tenter de contenir les manifestants.
Valentin Hugues, donc en direct de Durban en Afrique du Sud. Pas de discussion directe entre l'Iran et les États-Unis à Doha. L'annonce du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Cette même source indique que les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff sont en réunion avec les médiateurs qatariens. Un mouvement diplomatique qui intervient après une reprise des hostilités la semaine dernière en dépit d'un protocole d'accord signé il y a 2 semaines entre Washington et Téhéran.
Au Venezuela, l'Organisation mondiale de la santé craint une flambée épidémique après le double séisme catastrophique de la semaine dernière.
Plus de 1700 morts, c'est le dernier bilan des secousses. 50 000 personnes sont introuvables sous les décombres. Je vous donne un troisième et dernier chiffre pour vous rendre compte de l'ampleur des dégâts. 58 000 bâtiments endommagés ou détruits d'après des images satellites capturées par la NASA. Le travail des secours est évidemment titanesque. Cathy Santana est assistante sociale dans un quartier populaire de Caracas.
Les hôpitaux réclament de la chaux et ils réclament aussi du formol. Pourquoi ? Parce que le nombre de morts est énorme. Et qu'est-ce qu'il arrive à ces cadavres qui commencent déjà à se décomposer, en particulier à La Guaira, qui est une zone très chaude ? Eh bien, vous pouvez l'imaginer. Normalement, on ne peut pas utiliser de la chaux pour les cadavres parce que cela accélère leur décomposition. Cela fait disparaître les traits de leur visage, leurs empreintes. Mais dans un pays comme le nôtre, il faut agir tout de suite, car nous n'avons pas de sac en plastique pour emballer les cadavres. Et beaucoup de ces cadavres finiront dans des fosses communes parce qu'ils n'ont pas été identifiés. Il y en a beaucoup trop. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de morts qu'il y a en ce moment.
Et Cathy Santana, habitante de la capitale vénézuélienne, au micro d'Abla Junaidi. Au total, une trentaine de pays sont au chevet du Venezuela. L'armée américaine notamment, qui a déployé 130 marines et annoncé hier que le port de La Guaira, l'épicentre, pouvait désormais accueillir l'aide humanitaire. 419 drones ukrainiens abattus dans le ciel russe la nuit dernière, chiffre communiqué par les autorités russes. Deux régions du sud ont été survolées, la Crimée annexée notamment, et puis dans la région de Moscou où une maison a pris feu entraînant la mort d'un bébé de 6 mois, toujours d'après les autorités locales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les attaques de longue portée ont touché un centre de communication. En Espagne, plus d'un million de demandes de régularisation ont été déposées sur le bureau du gouvernement. C'est le Premier ministre Pedro Sanchez qui l'annonce à l'occasion du dernier jour ce mardi pour remplir son dossier dans le cadre d'un plan massif du gouvernement socialiste lancé mi-avril. Il met en avant, je cite, une bonne décision pour notre économie. À ce stade, au moins 360 000 réponses positives ont déjà été délivrées. Cette procédure doit bénéficier en grande majorité à des migrants latino-américains.
En France, c'est la fin du parcours parlementaire pour le texte de loi sur la fin de vie.
Et qui vise à instaurer un droit de l'aide à mourir pour des patients atteints d'une maladie grave et incurable. Les députés se prononcent aujourd'hui, mardi, en troisième lecture. Le gouvernement a annoncé qu'il donnerait le dernier mot à l'Assemblée dans 2 semaines après un passage par le Sénat. Bonjour Laurence Théo.
Bonjour Simon, bonjour Anne, bonjour à tous.
Du service France d'RFI. Alors à quoi va ressembler ce texte ?
Alors, la proposition de loi prévoit donc, Simon, d'autoriser le suicide assisté. Les critères d'accès à l'aide à mourir sont inchangés. Un patient majeur de nationalité française, capable de discernement, avec une maladie incurable en stade avancé ou terminal, et des souffrances insupportables, réfractaires au traitement, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être suffisamment soulagées par les traitements disponibles. Sur l'administration du produit létal, du produit mortel, le Rassemblement national a tenté d'exclure les médecins du geste ultime. Et la gauche espérait laisser le libre choix aux patients. Ces deux propositions ont été rejetées. C'est le malade qui s'administrera lui-même le produit mortel, sauf s'il n'est pas en mesure physiquement de le faire. Un médecin ou un infirmier pourront faire le geste.
Et justement, Laurence, quel sera le rôle des soignants ?
Simon, ils occupent une place centrale dans le processus. Toute personne souhaitant bénéficier de l'aide à mourir devra en faire la demande auprès d'un médecin, à lui d'évaluer si le patient remplit les critères d'accès prévus par la loi. Pour cela, il devra réunir un collège pluriprofessionnel, dont un spécialiste de la pathologie. À l'issue de cette concertation, la décision appartiendra toutefois au médecin.
Les parlementaires ont également supprimé le délit d'entrave à l'aide à mourir.
Oui, et c'était dans une volonté d'apaisement. Ces mesures un peu polémiques prévoyaient de punir pénalement quiconque empêcherait ou inciterait un patient à recourir à l'aide à mourir.
Les explications de Laurence Théo. En France, toujours oubliée, la taxe de 2 euros sur les petits colis. Le gouvernement fait marche arrière et suspend cette récente mesure dès demain mercredi, jour d'introduction d'un autre droit de douane européen. Celui-ci est de 3 euros. À l'origine, ces deux taxes devaient se superposer, mais le ministre du Commerce invoque, je cite, le marché unique européen. À Monaco, une enquête ouverte pour tentative d'assassinat. Un colis piégé a blessé grièvement lundi soir un oligarque ukrainien et deux de ses proches dans la principauté du sud de la France. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour tenter de retrouver le suspect. La victime, Vadim Ermolaev, Kiev fait l'objet de sanctions depuis 3 ans de la part de Kiev, en cause d'après les services de sécurité ukrainiens, avoir choisi de poursuivre le commerce en Crimée sous occupation russe.
Les fans de foot ont des fourmis dans les jambes aujourd'hui.
Et que de beaux matchs dans les heures à venir que vous pourrez évidemment suivre sur le site internet des RFI, action après action. La Côte d'Ivoire, à 90 minutes de valider peut-être un ticket pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Les éléphants affrontent la Norvège, coup d'envoi 17h temps universel. La suite, ce sera France-Suède, 21h temps universel. Les Bleus, grand favori, auréolé de 3 victoires en autant de matchs, 10 buts marqués, Thomas de Saint-Léger. On prend pas trop de risques en disant que Mbappé et ses coéquipiers sont les grands favoris. Hein.
L'anglais Gary Lineker, le norvégien Erling Haaland et même le suédois Zlatan Ibrahimovic, les gloires de toutes les époques font des Bleus les favoris naturels du tournoi. Un statut dont ne se grise pas le milieu tricolore Adrien Rabiot.
On entend forcément, on voit ce qui se dit, mais on essaye de vraiment rester concentré, de rester dans notre bulle. Je pense qu'on l'a bien fait jusqu'ici parce qu'on a très bien préparé les matchs, toujours avec autant de sérieux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir.
Adrien Rabiot parle en connaisseur, il était de la convenu de l'Euro 2021, une sortie dès le premier match au couperet face à la Suisse. L'échec, le vide, le flop. Faut-il l'envisager ? Question posée à Didier Deschamps. Réponse directe du sélectionneur.
C'est la pire des choses de penser à ça. Là, il n'y a pas de match de rattrapage. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit avoir de la fébrilité ou de la retenue. C'est différent peut-être à gérer, mais on est venu pour ça aussi.
Motivation, expérience, cohésion, résultat face à une équipe de Suède, 3e de son groupe, battue 5-1 par les Pays-Bas, les Bleus arrivent sûrs de leur force avec une identité offensive assumée.
Est-ce qu'on peut y arriver comme ça ? Mais on l'a fait il y a 4 ans. Pas les mêmes joueurs, mais on avait un dispositif similaire. On a une capacité à créer du danger et à faire mal à l'adversaire. Et ça, c'est une force. Et je veux qu'on garde cette force-là.
Le groupe, en plus, est au quasi-complet. Dans la ligne d'attaque, seul le joker Marcus Thuram devrait manquer. Thomas de Saint-Léger, New York RFI.
Alors France ou Suède, le vainqueur affrontera donc le Paraguay en 8e de finale. Les Sud-Américains héroïques lundi en sortant l'Allemagne à l'issue des tirs au but. Même scénario pour le Maroc, victoire au pénalty contre les Pays-Bas. Les Lions de l'Atlas rencontreront le Canada en 8e. À noter dans votre agenda, ce sera dans 4 jours, samedi prochain.
Et on compte bien être devant. Merci Simon Marseille. Tout de suite, la Fabrique du Monde. Guillaume Nodin, vous nous parlez des discussions entre Américains et Iraniens qui reprennent pour essayer de parvenir à un accord de paix. En principe, on se retrouve au Qatar. Les États-Unis envoient des négociateurs de haut niveau. L'Iran parle uniquement de discussions techniques. Ça va durer plusieurs jours d'incertitude et d'accrochage qui rendent en fait la situation assez difficile à décoder, il faut le dire.
Oui, ni tout à fait la guerre, ni tout à fait la paix. C'est le lot quotidien depuis la signature du protocole d'accord et le premier round de discussion en Suisse. Le week-end dernier, les États-Unis ont bombardé le territoire iranien en réponse, selon Washington, à l'attaque par l'Iran de 2 navires qui tentaient de passer le détroit d'Ormuz. Téhéran a choisi de bombarder ses voisins de la région, le Koweït et Bahreïn. Des violations manifestes du cessez-le-feu dont les deux parties s'accusent mutuellement mais qui sont suspendues à l'aube de la reprise des discussions. C'est presque comme si ces frappes de part et d'autre étaient une forme de dialogue ou au moins une façon d'établir un rapport de force avant de recommencer à discuter.
L'un des nœuds de cette discussion, c'est la question du détroit d'Ormuz, toujours.
Et c'est d'ailleurs largement autour de cette question que les discussions prévues à partir d'aujourd'hui doivent tourner. Après une réouverture de la navigation, le trafic y a ralenti ce week-end en raison des attaques dont on parlait. L'Iran répète depuis des semaines, en dépit de l'opposition américaine, qu'il n'y aura pas de retour à la situation d'avant-guerre quand le passage était gratuit. Et l'Iran a menacé aussi les navires tentés de contourner l'itinéraire qu'il autorise. Les autorités iraniennes considèrent que c'est à elles de gérer la navigation et le passage par le détroit. En face, le sultanat d'Oman, qui borde aussi le détroit d'Ormuz, a proposé une route alternative, au moins pour accélérer le transit et la circulation des navires toujours bloqués dans le golfe Persique. L'Iran confirme qu'une réunion avec les autorités omanaises a eu lieu à propos de la circulation dans le détroit. Le sultan d'Oman était hier en visite à Paris et à cette occasion, le président français Emmanuel Macron annonce que les deux pays vont collaborer avec leurs partenaires au déminage de ce détroit.
Mais ça n'est pas la seule question en jeu. Dans cette reprise des discussions, il y a aussi la question financière.
Et oui, d'ailleurs, ça tombe assez bien que la discussion soit prévue au Qatar, car c'est justement dans l'émirat que sont situés actuellement une partie des avoirs iraniens gelés et qui doivent être débloqués au terme du protocole d'accord. Ça fait un peu plus de 10 jours qu'il a été signé, une semaine que les discussions ont commencé en Suisse, et pour l'instant, Téhéran n'a pas vu l'ombre d'un dollar. C'est sans doute pour cela que le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré ce lundi que les démarches nécessaires pour les débloquer étaient en cours. Et l'Iran parle de discussions techniques, parce que c'est technique, mais c'est quand même important vu la situation économique. On parle de 6 milliards de dollars dans un premier temps, sur une douzaine qui sont actuellement situés au Qatar. 6 milliards, c'est exactement la somme qui avait été convenue lors d'un accord d'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis de Joe Biden en septembre 2023. Le paiement avait été suspendu après l'attaque du 7 octobre en raison du soutien iranien au Hamas. On a le droit d'imaginer que ce n'est pas tout à fait un hasard qu'on parle de 6 milliards de dollars. Cela équivaut à dire, et c'est assez savoureux, que l'Iran insiste pour que Donald Trump honore un engagement qu'il avait vertement reproché à Joe Biden.
La fabrique du monde. À demain, Guillaume Nodin.
RFI. L'Europe à midi.
L'actualité en Europe et la guerre en Ukraine, des attaques de drones menées par les deux camps. La Russie dit en avoir détruit plus de 400 la nuit dernière et le gouverneur de la capitale annonce que la chute de débris de l'un de ces drones a tué un bébé près de Moscou. Les autorités font aussi état d'un mort dans la région de Belgorod, proche de l'Ukraine. Les attaques, elles se déroulent également autour de la mer Noire, sur les côtes et sur l'eau. Des attaques de raffineries ou bien de bateaux avec des conséquences pour l'environnement parce que les drones provoquent régulièrement des fuites de pétrole. Reportage à Anapa, de notre envoyé spécial, Anissa El-Jabri.
Décembre 2024, détroit de Kerch qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire, deux navires coulent des bateaux de la flotte fantôme russe qui déclenchent une marée noire gigantesque. Printemps 2026, en trois semaines, une attaque spectaculaire par des drones ukrainiens de la raffinerie russe de Tuapse sur la côte sud de la mer Noire, une pluie de pétrole qui pollue tout. 10 jours plus tôt, c'est un drone qui heurtait un navire et à nouveau du brut dans la mer.
On en a pleuré. On était en train de s'en sortir et ça recommençait. Encore une catastrophe.
Anastasia était esthéticienne jusqu'à la catastrophe de décembre 2024 et l'immense marée noire. Elle travaille depuis à Anapa, au centre d'Idan, un centre indépendant de sauvetage des oiseaux, le seul de la côte. 3000 mètres carrés prêtés par un vigneron local. En surface, des grandes cages pour les oiseaux qui vont déjà mieux, des piscines et au sous-sol, des soins pour ceux qui en ont encore besoin ou qui arrivent encore.
Dès le premier soir, on a lavé 5 oiseaux jusqu'à minuit. Le lendemain, c'est 100 qui sont arrivés, puis encore 100. Les gens en amenaient constamment 5 oiseaux dans une boîte, dans des sacs, parfois à main nue, parfois dans un tissu.
Les plages d'Anapa ont été nettoyées, au moins visuellement. Du sable propre a été déversé. Les autorités affirment que la baignade est sans risque. L'économie de la ville en dépend. Anapa est une des destinations de vacances préférées des familles russes de la classe moyenne. Un peu plus de 200 km au sud, sur la côte, à Tuapse, les dégâts de la destruction de la raffinerie ne sont toujours pas effacés, surtout sur les plages non officielles, soit celles qui ne sont pas dédiées à l'exploitation du tourisme. Silence des autorités locales et à peine quelques chaînes Telegram qui postent des images de rochers recouverts de liquide noir. Quelques protestations timides et mesurées. Chacun sait qu'il vaut mieux garder profil bas. Anastasia aussi.
Nous ne disons pas que la mer est sale. Nous ne disons pas non plus que la mer est propre. Nous disons que nous ne savons pas ce qu'il y a dedans.
Depuis le début du conflit, des dauphins morts d'empoisonnement au mazout s'échouent régulièrement sur les côtes. Aucun décompte officiel à ce jour. Ils sont pourtant considérés comme des baromètres de l'état des eaux. À la pollution marine, il faut ajouter la pollution sonore, drones, avions, sous-marins. Les ONG internationales parlent déjà d'un point de non-retour pour la mer Noire. Anissa El-Jabri, Anapa, RFI.
Il est 11h19 en temps universel. Un coup d'œil à la presse en Europe. The Independent revient sur les annonces du Premier ministre démissionnaire au Royaume-Uni tout à l'heure. Le plan de dépenses militaires longtemps retardé est enfin dévoilé, un plan toujours critiqué. Keir Starmer débloque 1 milliard de livres supplémentaires pour arriver à l'équivalent de presque 19 milliards d'euros. C'est moitié moins que ce qui avait été jugé nécessaire, rappelle le journal. Et ce qui avait poussé le ministre de la Défense à démissionner. El País nous parle de la Finlande, pionnière en matière d'éducation depuis des décennies et qui recrute activement des enseignants espagnols pour la maternelle. Elle en manque et elle offre 3200 euros bruts par mois ainsi qu'un logement garanti pour les faire venir en Finlande. Et puis la presse européenne revient aussi largement sur les matchs d'hier en Coupe du Monde. L'élimination des Pays-Bas par le Maroc au tir au but, des tirs au but incroyables. Quelle terrible terrible humiliation, écrit The Telegraph. La prestation de l'équipe nationale néerlandaise, défensive et sans la moindre initiative, est une véritable honte. Le journal estime que le capitaine et le sélectionneur ont fait leur temps. Voilà pour les oranges. Mais la surprise d'hier, c'est la défaite d'une autre équipe européenne, la Mannschaft, battue par le Paraguay, là aussi au tir au but. Et là aussi, la presse n'est pas tendre. Lors des deux dernières Coupes du Monde, l'Allemagne n'avait pas dépassé la phase de groupe et là, elle sort en 16e de finale. Le sélectionneur national a échoué lors de cette Coupe du Monde à Sen ce matin, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il a largement surestimé son équipe et ses propres capacités. Bref, pour le journal, cette défaite résume parfaitement la compétition allemande. Elle n'a jamais brillé. Die Welt est encore plus sévère. Le chancelier a même félicité cette équipe lamentable en disant « Nous sommes fiers de vous ». Die Welt poursuit « Non ». Pas du tout, bien au contraire. Un pays d'athlètes ambitieux, intelligents et avides de victoire est devenu un havre de médiocrité insipide.
I've been slapping raps, my pains and my truths and my habitats. Snowball fight, the devil in the avalanche. Cross planes, frost flames, melting M&Ms. The brain power, some of seven heads. Levitate, using core, think of seven legs. I make you picture every move in a still photo. This is precious, close your eyes, it could kill Frodo. No promo, but heads know the real. When they hear it, they can feel the energy get revealed. Way to please bring me some Hennessy with my meal. Break bread and make moves, as slippery as an eel. Cold steel, delivery in your ear. The verse hits the page with the symmetry of a sphere. Each hand has the ability of a spear. I throw both.
smoke can tear humidity from the air. Give me, that's what I fight for and write for. A right to invite war and cite war. That's what I build for, I kill for. What I'm skilled for, what you think I live for. That's what you get when you stand up. Instead of sitting on your ass, you need to man up. That's what you get when you follow through. Yeah, be a leader, they will follow you. Listen, yeah, I fight for everything I have in life. I slap you back if you hit me with some bad advice. Everything that has a price is worth the sacrifice. If I think what I said suffices, then I'll pass the mic. I've been living an assassin's life, in the shadows with a lack of light, giving stink eyes to passerbys in the night. I only come out to eat like a rat when there's no one else in sight. I can't relate to the laziness that these rappers show. All of them are horrible, all of them have to go. Ammunition for the lack of ambition you have. I'm prolific with my work, what the listeners demanded, handed defeat to any head who wanna get bodied. I'll knock you out your mind if you aren't already. Rocky with combos on Carl Weathers. We can brawl, fellas, I fight for my freedom in all weathers. Now gimme, that's what I fight for and write for. A right to invite war and cite war. That's what I build for, I kill for. What I'm skilled for, what you think I live for. That's what you get when you stand up. Instead of sitting on your ass, you need to man up. That's what you get when you follow through. Be a leader, they will follow you. That's what I fight for and write for. A right to invite war and cite war. That's what I build for, I kill for. What I'm skilled for, what you think I live for. That's what you get when you stand up. Instead of sitting on your ass, you need to man up. That's what you get when you follow through. Be a leader, they will follow you.
C'est sur le
99.1.
Le mix.
En période de canicule, protégez-vous en adoptant les bons réflexes. Buvez de l'eau régulièrement, restez au frais. Et si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou qui tient des propos incohérents, appelez immédiatement le 15.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Retrouvons-nous pour l'Entre-Femmes tous les premiers mercredis du mois de 12h à 13h ou le samedi suivant de 14h à 15h sur Radio HDR 99.1 FM. C'est l'émission Sorore de femmes courageuses qui nous livrent au travers de leurs témoignages leur combat de vie. Parce qu'être une femme, c'est souvent la promesse d'un destin semé d'embûches. Partageons nos expériences afin de se reconnaître, se soutenir, se comprendre lors de notre entretien mensuel de l'Entre-Femmes sur Radio HDR 99.1 FM.
Kumikata Station, c'est votre émission reggae, un mardi sur deux de 18h à 20h.
Sur la radio HDR.
Deux heures de reggae sur vinyle, des infos du mouvement Sound System, des invités.
C'est Kumikata Station.
Animé par Liviti, un mardi sur deux, sur le 99.1 FM. En live, sur le Facebook de la radio HDR, page Facebook Kumikata Station. Alors n'oubliez pas, un mardi sur deux, c'est Kumikata Station, de 18h à 20h, sur Mix des Cultures.
Kumikata Station.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Ça y est, je capte un signal.
Écoutez.
Mais tous les dimanches, dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du solénoïde.
Qu'est-ce qu'il dit là? De quoi il parle?
Ah ben ça, je sais pas.
En l'espace de 60 minutes, solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites.
Qu'est-ce que tu vois?
Solénoïde, et tous les dimanches, dès 22h.